Alors, ici Stéphane Deslauriers et je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième épisode d'Ultrason. Et c'est un podcast que je co-anime avec mon ami et mélomane connaisseur Mathieu Robitaille. Mathieu, deuxième épisode déjà. Passez un bon mois.
C'est rempli de musique comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Et on a bien hâte de partager avec vous qu'est-ce qui nous a trotté dans les oreilles.
Exact. Évidemment, là, on va le faire pour les premiers épisodes, mais par la suite, je vais laisser tomber ce boniment-là. Ultrason, évidemment, ça va mettre en relief les univers musicaux respectifs de moi et Mathieu. Il y aura bien sûr de nombreux extraits musicaux, mais selon nos humeurs, il est possible aussi que l'on discute et qu'on débatte ensemble, Mathieu, de la création musicale au 21e siècle et de plusieurs autres sujets. Et la formule va être la même pour les prochains épisodes. Et à un moment donné, on va probablement avoir quelques invités. Voyons voir. Ouais. On va faire un tour d'horizon des parutions qui ont happé notre attention au cours des dernières semaines. Et par la suite, ben, on va vous proposer deux thèmes que nous allons approfondir. Et ce mois-ci, Mathieu, tu vas nous présenter un survol appréciatif de la carrière du multi-instrumentiste et auteur-compositeur états-unien Louis Cole. Et pour ma part, je vais vous présenter, ça va être un petit peu moins lourd que la semaine, pas la semaine dernière, mais le mois dernier. Je vous présenterai quelques trames sonores cinématographiques marquantes dans ma longue vie de mélomane. Alors, ce que je te propose, Mathieu, c'est que tu te lances avec les parutions qui t'ont happé au cours du dernier mois.
D'accord, allons-y. Je commence tout de suite en disant, le mois dernier, j'avais dit, j'écoute du The Fall, puis le mois prochain, je vais être rendu. Non, il y a trop de nouvelles sorties. Et je suis pas encore prêt à parler de la discographie complète de The Fall. Ça pourrait devenir un running gag. Je pourrais passer un an à dire « j'ai pas fini encore ». Mais non, la fin approche, j'ai plus que trois quarts de fête. Et croisons les doigts, je pense que le mois prochain, ça va sûrement être mon thème.
Non, mais j'ai hâte de t'entendre là-dessus.
Mon bloc thématique. Ouais. Mais ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai écouté depuis le dernier mois? Il y a This Fig et The Body qui ont sorti ensemble l'album Orchards of a Futile Heaven. Donc, c'est une collaboration entre le duo Doom Metal The Body et une chanteuse, artiste, DJ This Fig. The Body, c'est un duo metal noise formé en 99 dans Rhode Island à Providence, mais qui est depuis établi à Portland en Oregon. C'est composé du chanteur et guitariste Chip King et du batteur Lee Buford. Je trouve que c'est des noms tellement... on dirait des cowboys ou des acteurs. Chip King et Lee Buford.
Oui, des vieux acteurs de western des années 50.
Ouais. C'est deux gars costauds, barbus. Ils ont lancé leur premier album en 2004, donc 5 ans après leur formation. Puis depuis ce temps-là, ils ont lancé 8 albums sous le nom de Body, strictement, mais aussi une bonne douzaine, j'ai perdu le compte en essayant de les compter, une bonne douzaine d'albums collaboratifs. Puis c'est vraiment un groupe qui est ouvert à la collaboration. Ils ont fait plus d'un album avec Full of Hell et aussi plus d'un album avec Thou. Autrement dit, ils sont ouverts à toutes sortes de créations conjointes du moment que c'est heavy, que c'est doom, puis que ça se fiche un peu des conventions métal, parce qu'ils sont, métal champ gauche. Leur album, ils ont fait notamment un album avec Big Brave de Montréal, qui était surprenant par sa retenue.
Okay.
C'était à la limite de la musique folklorique, mais toujours avec un petit côté menaçant dedans. C'était très réussi, c'était un album assez court qui était sorti sur Thrill Jockey. Excellent label. J'avais beaucoup aimé cet album-là. Bref, pour l'album qui est sorti récemment dont je veux parler, c'est avec This Fig. C'est une chanteuse musicienne d'origine new-yorkaise, mais qui est établie à Berlin depuis un petit bout de temps parce que c'est la ville de premier plan pour la scène techno. Et elle, ce qu'elle fait avant tout, c'est être DJ. Son vrai nom, c'est Felicia Chen. C'est une artiste multidisciplinaire, qui s'est d'abord fait connaître en tant que DJ. Ses sets de DJ étaient très variés. Ça combinait le pop, le metal, le hip-hop, le techno, mais d'une façon particulière et bien à elle. Puis j'ai aussi vu qu'elle a fait des installations artistiques où est-ce qu'elle se filme elle-même avec certains maquillages et avec sa musique en arrière-plan. Bref, elle ne se laisse pas résumer en quelques mots. C'est une artiste assez intéressante et encore assez jeune aussi. Son premier album solo, ça s'appelait Purge, c'est sorti en 2019. Puis depuis ce temps-là, elle a fait plusieurs collaborations, notamment avec The Bug. Ça semble être un style qui va bien avec elle. Mm-hmm. The Bug, The Body. Et aussi, elle a participé à un album dont je parlais le mois passé, Shook World de King Vision Ultra, qui était une espèce de mixtape chant gauche abstrait. Elle est là-dessus aussi. Donc, le fruit de leur collaboration, c'est l'album Orchards of a Feudal Heaven. Il est sorti le 23 février. Je dirais que ça ressemble vraiment au mariage de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant à propos de ces deux-là. C'est doom metal, c'est industriel, c'est expérimental, mais c'est aussi expressif grâce à l'apport de Disfig qui apporte au tout son énergie bien à elle. Ça dure même pas 40 minutes et c'est vraiment solide d'un bout à l'autre. Vraiment tout dans le même ton, mais encore une fois, The Body trouve un collaborateur et fait quelque chose de stimulant. Ensuite, j'ai aussi entendu un premier album d'un groupe de Chicago qui s'appelle Frico. Frico, c'était d'abord un trio qui avait lancé deux mini-albums et quelques chansons depuis 2020. Mais ils ont annoncé qu'ils devenaient un duo pas longtemps avant que le premier album soit annoncé. Le premier album s'appelle « Where We've Been, Where We Go From Here ». Ça a été lancé le 16 février. Et donc maintenant, c'est le projet de deux musiciens, Nico Capetan, qui joue de la guitare et qui chante, et Bailey Minzenberger, qui joue de la batterie. Sur scène, j'ai vu des images d'eux sur scène pour le lancement des spectacles autour du lancement de cet album-là, et ils ont un bassiste avec eux. Donc ça reste une forme d'un trio, mais officiellement, il y a juste deux membres officiels dans le groupe. Ils sont assez jeunes. Ils font ce qu'ils font, c'est très efficace, puis c'est un genre de indie rock emo. Je veux dire, c'est emo, on pense à plein de choses qui vont avec ça, là, des coupes de cheveux puis des styles vestimentaires. C'est du indie rock émotif. Puis oui, il y a des racines communes avec le indie rock emo. S'il y a des racines dans ce qu'on entend dans le indie rock depuis le tournant du millénaire. Moi, je les comparais, disons, à Car Seat Headrest, à Cloud Nothings. J'ai lu aussi, il y a des gens qui les comparent à Bright Eyes, les premiers ouais. albums de Bright Eyes quand c'était peut-être un peu plus proche du punk et c'était aussi très émotif. Je dirais aussi que c'est ce que Black Country New Road font, c'est une version plus orchestrée et plus sophistiquée de ce que Frico fait aussi, c'est-à-dire du indie intense et émotif. Ça a un petit côté adolescent. Ça va rappeler aux plus vieux qui nous écoutent la vague indie des années 2000. C'est plus enragé que ce que faisait Arcade Fire, par exemple. Et il y a des moments où il y a une espèce d'agressivité musicale qui se pointe le bout du nez, qui amène l'ensemble aux limites du post-hardcore. Fait que ça peut devenir assez intense musicalement. Tout ça pour dire que ce sont des jeunes gens qui font quelque chose de viscéral et que je trouve très efficace. L'album a reçu très bonne presse pour un premier album et je suis prêt à parier qu'on va les voir sur un paquet de listes à la fin de l'année. Ça vaut la peine de l'entendre, même si ça peut être un petit peu gênant, ça peut taper sur les nerfs pour ceux qui ont déjà entendu ça et qui ont passé l'âge un peu. Malgré tout, c'est une réussite de ce jeune duo de Chicago.
Premiers albums, ça va être, je vais mettre ça surligné en jaune et ça va être dans ma liste d'écoute. Mais Frico, si je me souviens bien, quand je lis les notes en préparation d'émission, il me semble avoir vu ou entendu ça dans mes listes d'écoute souvent à un moment donné en travaillant. Et puis à un moment donné, je suis tombé sur une chanson puis ça m'avait titillé. Et là, la description que tu en fais va me forcer à plonger là-dedans. Excellent.
Je dirais que moi, je les avais vus pendant peut-être 2 ou 3 semaines voir le nom passer, avoir l'impression que c'est c'était décrit comme du indie puis à l'ancienne. Ouais, puis ouais. Je me suis dit, j'aimerais pas ça. Puis je l'ai pas essayé avant d'avoir vu le nom passer pendant comme 2-3 semaines. Juste pour donner une idée, le site Album of the Year, où est-ce que les gens peuvent donner une note à tout ce qu'ils veulent. Du point de vue du public, c'est le deuxième album le mieux coté pour l'instant cette année.
Quand même.
Okay. Ouais, fait que ceux qui aiment ça s'excitent beaucoup pour ça, puis ils donnent 10 sur 10. J'aurais peut-être plus donné un 8, mais ça reste très
vendu
efficace.
Dans mon cas, c'est sûr, c'est dans ma palette musicale. Je vais sûrement plonger là-dedans sous peu. Je t'en donne des nouvelles.
Excellent.
Excellent.
Mon dernier choix, j'allais parler d'un projet électronique britannique qui s'appelle Romance. Et je lance le nom comme ça, ça vaut la peine. Allez écouter, c'est de l'espèce de ambiant hypnagogique, vraiment bien fait, avec un personnage mystérieux derrière. On ne sait pas qui fait ça. Mais j'ai décidé que ça prenait le bord parce que, voilà quelques jours, j'ai entendu un album live qui est sorti d'un groupe français qui s'appelle Nout, N-O-U-T. Et c'est un trio féminin qui fait une espèce de jazz noise vraiment bien foutu. Le groupe est composé d'une flûtiste qui s'appelle Delphine Joussin, d'une harpiste qui s'appelle Raphaël Rinaudot et d'une joueuse de batterie qui s'appelle Blanche Lafuente. Il avait sorti un mini-album de 5 pièces en 2021. En disant que c'était un projet qui avait été stimulé par le confinement. Elle voulait faire quelque chose d'explosif, qui allait faire danser, qui allait faire sauter les gens. Fait qu'ils ont décidé qu'ils prenaient leur formation jazz et classique et qu'ils allaient faire quelque chose de complètement énergique avec ça. Donc, c'est une flûtiste qui fait passer sa flûte par plusieurs effets et qui parfois crie dans sa flûte pour que sa voix passe dans ses effets. Aussi une harpiste qui, elle aussi, a une harpe électrique, donc elle est pluggée dans un ampli, puis elle a des effets, elle aussi. Puis une joueuse de batterie qui est vraiment spectaculaire, sans beurrer épais, disons. C'est trois bonnes musiciennes qui s'écoutent puis qui veulent faire quelque chose d'explosif. Donc, je vous recommande, il y a un album live qui est sorti au début du mois de mars qui s'appelle Live Album. C'est un trio qui s'appelle Nout. Je pense qu'elles sont à Paris. Il n'y a pas tant d'infos sur.
Et tu as découvert ce groupe-là de quelle manière, mettons, en fouillant comme d'habitude?
Je pense que c'est. Si je me souviens bien, c'était le site web The Quietus qui ont une chronique mensuelle sur la musique française.
Okay.
Ils ont quelqu'un dans leur staff qui est en France puis qui suit ce qui se passe en France. Puis il écrit en anglais sur le site The Quietus. Et un des albums dans la colonne, c'était, si je me souviens bien, dans la chronique, c'était cet album-là de Nout qui a été enregistré live à un festival de jazz. D'ailleurs, je suppose qu'il était lui aussi invité au festival de jazz. Il y a trois pièces où est-ce que le saxophoniste Mats Gustafsson est invité sur les pièces. Il y a une pièce qui me tape sur les nerfs parce qu'ils rajoutent le thème d'Inspecteur Gadget. C'est vraiment niaiseux. Mais autrement, c'est très impressionnant. Ça dure une bonne heure et quart.
OK.
Un bon set énergique, bruyant. C'est en plein mon genre. Je recommande.
Excellent. Et bonne improvisation, parce qu'on va, on va dire aux auditeurs, parce que juste avant d'enregistrer, il n'y avait rien de préparé. Et Mathieu dit, je vais changer d'album, et c'est parfait, ça roule. Et c'est un peu ça l'émission également. Des fois, dernière minute, on arrive avec une écoute, puis on remplace nos textes. Inquiétez-vous pas, on part. C'est de la passion plus que de la préparation souvent. Excellent, Mathieu.
À toi, Stéphane. Tes choix musicaux du dernier mois.
Oui, que tu les connais tous, probablement. Mais j'ai eu beaucoup de fun à écouter ces disques-là. Le premier, tu ne seras pas surpris que j'ai sélectionné. Je pense que tu avais failli mettre dans ta liste d'écoute d'albums, mais étant donné que moi, je l'avais sélectionné, tu as laissé tomber. Et c'est l'excellent Half Divorced de Piss Jeans. Sixième album studio pour un groupe disons, le classique punk hardcore États-Unis.
Ouais.
Premier album en 7 ans qui suit Wild of Now, qui est paru en 2017. Le disque a été réalisé par Dan Goodwin. Et d'entrée de jeu, dès que j'ai entendu le premier extrait, qui est la dernière pièce de l'album, Moving On, j'ai, j'ai capoté. Mettons,
c'est
là.
C'est tellement bon.
Ah, c'est un hit. C'est pas un hit. C'est un. Carrément un hymne punk fédérateur de très haut niveau.
Ouais.
Je fais longtemps que j'ai pas eu une charge d'adrénaline aussi forte que ça. À écouter le disque, mais à écouter ce single-là qui est excellent. J'ai décelé, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais un son qui est un petit peu plus... C'est mieux réalisé que d'habitude, un petit peu plus lisse.
C'est ça va dans les extrêmes, je dirais. Parce ouais. que quand ça devient bruyant...
Ah ben oui.
Surtout oui. Le jeu du guitariste qui est un de mes guitar heroes des dernières années. Ah, il est fantastique comme guitariste. Mais les solos qu'il fait, les bruits qu'il trouve, c'est très bruyant, mais oui, dans l'ensemble, tout est très bien défini. C'est très bien enregistré.
Ouais. Ouais. Et la première pièce, je dirais qu'elle donne le ton à l'album... C'est une pièce qui est dissonante, un peu déconstruite. Et par la suite, là, ils sont un peu plus, je dirais, accessibles pour le reste de l'album sans l'être trop. Bref, ils m'ont soufflé. C'est vraiment un excellent disque.
Ouais.
Et pour te faire un comparatif, si tu n'aimes peut-être pas la route, là, je ressens exactement la même énergie que lorsque j'écoutais l'excellent Free LSD de Off. C'est la même chose. J'ai goût de peser sur plate les fois. Mm-hmm. Bref, ça fait... Soyez pas surpris, ça pourrait faire partie de mes meilleures crues de 2024. Évidemment, c'est paru sur Sub Pop. C'est très, très solide. Je le répète, Piss Jeans, Half Divorce. Et la pièce, justement, que vous allez entendre sous peu, c'est Moving On, grande pièce punk.
Ouais.
Deuxième album maintenant. Alors, c'est l'album de Ben Frost, Scope Neglect. Et là, on est dans un tout autre univers, quoique ça demeure quand même assez, je vais le mettre, là, c'est en guillemets dans mon texte, là, assez abrasif. Sixième album studio pour ce musicien australo-islandais. Ça a paru sur la maison 10 Mute Records. Et lui aussi, si je ne m'abuse, Mathieu, ça faisait 7 bonnes années qu'il n'avait pas lancé d'album solo.
Ouais, je pense qu'il avait sûrement travailler sur des trames sonores ou collaborer avec d'autres parce que c'est son genre.
Ouais.
Mais ouais, je pense que le dernier album solo officiel, ça faisait plusieurs années. Ouais.
Et tu me corriges ou encore si je me trompe là-dessus, mais il n'a pas participé aux deux plus récents albums de Swans en plus. Je pense qu'il était dans le band, en tout cas, de Gira. En tournée, il me semble qu'il était là, mais Leaving Meaning et sur The Beggar, il me semble que je l'ai vu dans la liste
ouais,
des musiciens.
En fait, je pense que sur l'enregistrement, même sur The Seer, il était là.
Ouais, OK.
Fait que je ne sais pas à quand remonte le lien entre lui et Gira, mais c'est un partenaire de confiance pour Tim Hecker. Je pense qu'il a travaillé avec Björk. Fait que je pense que c'est un gars qui est apprécié pour venir mettre la main à la porte pour travailler sur certains albums. Il est un peu partout, mais ouais, en effet, plusieurs albums de Swans.
Et là, tu nommes Tim Hecker, mais je fais exactement un lien avec la musique de Tim Hecker, ça s'entend, là. Évidemment, il nous emmène dans des paysages sonores que je qualifierais de claustrophobes. C'est ponctué de très courts riffs métal, mais qui finalement, curieusement, c'est un disque qui m'a apaisé et j'ai pas trouvé ça nécessairement agressif. C'est vraiment un disque qui m'a apaisé. Et moi, ce que je trouve que j'ai aimé de ce disque-là, c'est l'utilisation du métal dans un contexte musical que je considère comme étant ambiant.
Oui, oui, oui.
Mais c'est pas métal. C'est
une texture de plus.
Une texture, exact. Ouais. Bref, c'est un disque que j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter et je vais probablement écouter cet album-là très régulièrement en faisant mes longues déambulations habituelles. Donc, c'est un album que je vais écouter souvent. Et mon dernier, ça là, Mathieu, ce groupe-là, j'écoute tellement de musique qu'à un moment donné, je me perds. Et ça tombait tout le temps, mais des fois, j'écoute des listes de lecture là, parce que je suis à choisir d'albums. Je fais comme, OK, je mets mon cerveau à off. Et eux revenaient, évidemment, dans mes tendances post-punk, bien évidemment, ce groupe-là apparaissait. Et à toutes les fois, je prenais mon téléphone, je regardais, je me disais, ah, Uranium Club, faudrait bien que j'embarque là-dedans. Ouais. Et on a un ami commun qui les connaît bien. Et qui, parce que, bon, on est tellement nerd que ce même ami commun-là, je pense, Mathieu, tu fais la même affaire. On se texte des albums. Ouais. Au fur et à mesure, on écoute un album, puis on se les envoie. Bref, on vous conseille pas nécessairement ça, de faire ça à la maison. Mais bon, on a beaucoup de plaisir à le faire. Et l'album de Uranium Club qui est paru le mois dernier, c'est Infants Under the Bulb. Et c'est un groupe originaire de Minneapolis. Le vrai nom du groupe, c'est de Minneapolis Uranium Club. Je pense que ça a paru sur deux maisons de disques simultanément. Donc, à mon avis, il y en a une qui distribue en Europe, un autre en Amérique du Nord.
Sûrement, ouais. Static Shock, je les connais Antifa. Pas, ces labels-là.
Ouais. Et 2019, il avait lancé The Cosmo Cleaner. Bon, moi, j'y ai vu, là, je vais nommer des bands pour guider les auditeurs. Des fois, j'entends de Feelies un peu dans le son. Des fois, le groupe punk, le vieux groupe punk australien de Saints. Mm-hmm. Et ce que j'ai adoré, c'est les textes qui sont des évocations d'histoires mystérieuses et non résolues. Puis c'est ponctué d'appels téléphoniques étranges comme intermède.
Ouais.
Groupe bizarre, mais le genre de band punk un peu nerd qui, moi, peut m'intéresser de temps à autre.
Ouais.
J'ai pas approfondi la discographie. Tu les connais probablement mieux que moi.
Je pense pas. Parce que c'est comme toi. On écoute plusieurs groupes post-punk, puis l'algorithme nous dit « Tu vas aimer Uranium Club aussi. » Le premier que j'avais entendu, c'était celui de 2019, The Cosmo Cleaner.
Ouais.
C'est pareil, c'est comme toi, j'avais entendu certaines pièces sans jamais vraiment y revenir sérieusement. Mais ouais, ils trouvent un bon ton post-punk, à la fois mystérieux et... non agressif.
Exact.
C'est un bon mélange.
Et j'aime beaucoup les guitares dans ce groupe-là qui sont vraiment distordues, un peu bizarres. La pièce Game Show, d'ailleurs, qui est une pièce instrumentale, si je me souviens bien. Ceux qui aiment les guitares distordues un peu puis les riffs un peu bizarres, ça va vous donner une bonne idée de ce que fait le groupe. C'est la pièce que vous allez entendre, de toute façon, Game Show. Fait que c'est mon troisième choix, Mathieu. C'est Uranium Club, Infants Under the Bulb. Fait que c'est les trois disques qui m'ont un peu marqué au cours du dernier mois. Et là, ça conclut notre segment de nos écoutes des dernières semaines. Et là, on va y aller avec notre segment plus, je dirais, nos sujets, notre thème régulier du mois. Fait que Mathieu, tu veux commencer?
Allons-y.
Comment ça?
Okay,
alors, allons-y. Vas-y avec Louis Cole. On va avoir beaucoup de choses à dire, je pense, sur ce musicien-là.
Ouais, ouais. Comme je disais tantôt, au lieu de parler de The Fall, je vais parler du contraire de Marky Smith. Marky Smith, c'est un chanteur non-musicien grognon qui n'est pas virtuose du tout. Là, je vais parler d'un musicien hyper virtuose qui fait tout sur ses albums. C'est Louis Cole. En passant, j'ai entendu des gens le nommer Louis. Et Louis, je ne suis pas certain. Il y a une entrevue avec lui. Le gars dit... l'intervieweur dit « On se connaît depuis longtemps, t'étais mon coloc ». Et pendant l'entrevue, cet intervieweur-là l'appelle par les deux noms, Louis et Louis. Alors, si un bon ami ne sait pas son nom par cœur, je me pardonne, je ne sais pas moi non plus son nom. Donc, je vais l'appeler Louis, ok? Je ne prononcerai pas le S, ça va être comme ça. La virtuosité, d'habitude, ce n'est pas du tout quelque chose que je recherche dans la musique habituellement.
Idem.
Mais quand certains autres éléments sont en place dans le travail d'un musicien, la virtuosité, ça peut avoir quelque chose de vraiment réjouissant. Sans donner l'impression qu'on écoute la masturbation musicale dans les oreilles, ce qui est assez dégoûtant comme image. Louis Cole, en particulier son projet Nowhere, c'est de la virtuosité qui, dans mon cas, fonctionne. C'est un peu un mystère pourquoi ça me fait cet effet-là, mais je vais essayer d'expliquer. Pour parler de lui, il faut que je parle de jazz un peu. Fait que j'aimerais commencer en disant que quand je parle de Louis Cole et de jazz... je parle d'un type de jazz très particulier. Pour moi, le ce qui est entre guillemets le vrai jazz, puis celui qui historiquement porte des décennies d'histoire sur son dos, c'est la musique afro-américaine. C'est la forme d'art afro-américaine par excellence.
Totalement.
Donc, de voir un gars blanc qui fait du jazz ou qui est de formation jazz puis qui se sert de ça pour faire sa musique avec beaucoup d'humour puis d'une façon très, très moderne qui n'a rien à voir avec le poids de l'oppression que les Noirs ont vécu, qui normalement est vraiment véhiculée et exprimée dans la musique jazz.
Uh-huh.
Je veux juste dire, je sais qu'il y a un vrai jazz historiquement qui a du poids. Puis là, je vais parler de quelque chose de plus léger. Mais quand je parle de jazz, c'est ça. Je parle du côté plus léger.
Tout à fait.
Je voulais juste prendre le temps
c'est important aussi de faire la distinction.
C'est ça. Donc, Louis Cole, c'est un musicien formé en jazz à l'université USC à Los Angeles. Il est actif depuis 2009, c'est-à-dire depuis la fin de ses études. Pendant ses études, il s'était bâti une solide réputation auprès de ses camarades de classe, des profs, des gens qui l'entouraient et qui l'entendaient, surtout pour son talent, mais aussi pour son style, son sens de l'humour. Je dirais que Louis Cole, c'est un musicien assez représentatif de sa génération de musiciens jazz. Des gens qui, malgré leur passion pour le jazz et la formation qu'ils ont reçue, ils ont des goûts qui transcendent les époques et les genres. Ce qui est inévitable pour une génération qui a grandi avec Internet, avec le piratage informatique, avec les réseaux sociaux. La combinaison de talents très particulière de Louis Cole, ça fait de lui un parfait représentant de ce qui se passe dans cette scène-là. C'est un jazz qui n'est pas une fin en soi, c'est une discipline qui rend capable de combiner les influences pour en arriver à des résultats qui peuvent être très surprenants.
Très bien dit.
Et qui sont à peu près aussi jazz que la programmation du Festival de jazz de Montréal, c'est-à-dire pas si jazz que ça.
En effet.
Quand on explore les musiciens avec qui Cole a collaboré au fil des années, depuis 2009, on a une constellation vraiment vaste de musiciens pas mal impressionnants. Je ne les nommerai pas tous, mais il y a Thundercat, le groupe Wolfpack, Domi, la claviériste de Jomi et J.D. Beck, le bassiste Mono Neon. C'est tous des musiciens qui ont... Tu sais, c'est représentatif de la jeune scène jazz qui est complètement online, qui a un style vestimentaire, qui a une image, qui a un humour. Parmi les noms moins flamboyants dans les collaborateurs, je noterais la présence du bassiste Sam Wilkes, du claviériste Ray Thistlethwaite, puis du saxophoniste Sam Gendel. Ils ont tous leurs propres projets en solo, puis ils font eux aussi plein de collaborations, puis ça vaut la peine d'être exploré, et ça va dans toutes sortes de directions. Donc, une fois qu'on part de Louis Cole, puis mettons que vous allez sur Discogs, puis vous allez chercher tel musicien, c'est quoi ses autres albums, bien, vous en avez pour des semaines et des mois. Je dirais que Sam Gendel en particulier, il y a un projet secret avec Louis Cole. Je dirais secret entre guillemets parce que tout le monde sait que c'est ces deux-là, mais ils ne montrent jamais leur visage quand ils sont dans ce projet-là et ils n'en parlent jamais publiquement. C'est un groupe qui s'appelle Clowncore. Ils portent des masques de clowns, puis ils sortent des vidéos où est-ce qu'ils jouent un mélange de jazz, de noise, de hardcore, de techno. C'est très rapide, c'est très tight. Puis le concept, c'est toujours de placer le duo dans un espace restreint avec des instruments qui prennent le moins de place possible. Il y a une petite batterie pour Louis Cole, un petit contrôleur MIDI avec son laptop. Puis Louis Gendel, il y a lui aussi un petit contrôleur MIDI avec un laptop et un petit saxophone de clown. Ça fait très cirque. Souvent, la comparaison que les gens font avec ça, c'est Mr. Bungle. Parce que
je suis pas surpris.
Ça fait musique de cirque, ça fait musique absurde, et ça devient metal hyper tight par moment. Donc, ils ont seulement fait des mini-albums qui sont toujours enregistrés live dans leur intégralité. Donc, vous pouvez aller voir le vidéo pour Toilet, puis vous pouvez aller voir le vidéo pour Van. Et c'est toujours filmé sur place dans le lieu où ils sont. Dans le cas de Toilet, c'est dans une toilette portable. Puis il y a une coupe de webcam accrochée dans la toilette avec eux. Puis c'est tout ce qu'on voit. C'est eux dans une toilette portable qui font.
En préparation d'émission, j'ai écouté Louis Cole et Nowhere, mais ça m'a échappé. Mais là, le fait que tu me parles des vidéos YouTube, ah ben là, c'est sûr, probablement même ce soir.
Oui. Ça passe vite. C'est deux mini-albums qu'ils ont fait. C'est très divertissant à voir. Il faut le voir pour le croire un peu. Se le faire décrire, puis même l'entendre, c'est pas assez. Il faut voir où est-ce qu'ils se sont placés pour jouer ça. La détermination, la volonté pour faire fonctionner un concept comme ça avec deux virtuoses comme ça, c'est comique, c'est très impressionnant. Là, je parle de collaborateurs, je parle de projets secrets, je m'égare un peu, là, parce que le gros de ce que Louis Cole fait depuis 2009, c'est dans ses projets solo, puis c'est avec le duo Nowhere, avec sa partenaire Geneviève Artadi. Je pense que ça se prononce Genevieve, mais je vais le prononcer.
Oui, tout à fait.
On vous parle en français, là, je vais le dire Geneviève.
Exact.
Geneviève Artadi, c'est une chanteuse qui partage l'affinité de Cole pour le côté pop, funk, et jazz, de la musique qu'ils font ensemble, puis aussi de la musique électronique. Ensemble, en tant que Nowhere, ils ont lancé en 2023 leur cinquième album. Mais le quatrième remontait à 2016. Donc, ils ont été très actifs très vite. Ils ont fait quatre albums très vite. Puis là, il s'est passé beaucoup de temps avant de faire celui de 2023. Et ça paraît qu'il y a un écart entre les deux, parce que ce que Nowhere avait fait sur les quatre premiers albums, c'était surtout du pop-funk comique. Il y avait beaucoup de chansons qui sonnaient comme des parodies de Michael Jackson. C'est comme des caricatures de Michael Jackson. Uh-huh. Essayons de faire Michael Jackson encore plus funk, puis encore plus accrocheur. Donc, c'est le fun, là. C'est divertissant, mais c'était un peu léger. Puis les textes, ça part fréquemment dans des directions qui sont pas mal puérils. Il y a des chansons qui parlent de masturbation, il y a une chanson qui parle d'une espèce d'hommage à la pizza. Puis il y a une chanson qui s'appelle Butt Tits Money. Ça vole pas haut.
Okay.
C'est pas mal puéril.
Ouais.
L'intention est clairement c'est plus d'être drôle que d'être profond. Mais avec Nowhere Forever de 2023, clairement, il y avait une ambition à essayer de faire quelque chose de plus unifié, de plus sérieux, tout en restant économe dans leur réalisation.
Et c'est le disque que j'ai écouté, moi.
Ouais.
J'ai pas écouté et j'ai beaucoup aimé ça. Continue, mais tu me vends pas les autres avant, ça, c'est sûr.
Si tu as aimé certaines des choses que Louis Cole a faites en solo, ben ce que Nowhere faisait en même temps, c'était pratiquement pareil, sauf chanté par une femme avec peut-être une sensibilité un peu plus pop.
Exact.
Mais tu as quand même une idée déjà, là, si tu as pigé dans Louis Cole.
C'est bien.
Je dirais que le médium qui démontre bien l'alliage d'ambition et d'économie qu'il y a dans Nowhere Forever, c'est dans les vidéos qu'ils ont faites. Parce que toutes les samples de l'album qui sortent au compte-gouttes depuis la sortie de l'album montrent qu'ils ont filmé tout l'enregistrement de l'album. Et tout est enregistré live. Donc, dans toutes les prises qu'on voit qui ont été retenues pour la vidéo, c'est ce qu'on entend sur l'album. On voit les musiciens jouer ensemble dans ce qui semble être la maison de Louis Cole. Ils sont dans une maison.
Mm-hmm.
On voit Louis Cole jouer de la batterie dans un petit corridor avec des tapis acoustiques autour de lui pour réduire le reverb, l'écho naturel de la pièce. Il y a des collaborateurs juste en face de lui dans le même corridor. Et Des fois, il y a un ensemble de cordes et de cuivres qui sont dans le salon et la cuisine. Il y a une chorale dans l'entrée ou dans la ruelle qui sont dehors. En gros, comment pas avoir à louer de studio? Comment est-ce qu'on fait ça en optimisant la prise de son qu'on peut faire avec les moyens qui sont rendus? J'en parlais le mois dernier. Ça va être un thème qui va revenir souvent. À quel point c'est rendu facile de... À quel point c'est rendu accessible de faire un enregistrement potable pour pas tant d'argent que ça.
Sans t'amener ailleurs, là-dessus, c'est un bon point, puis ça pourrait être un sujet qu'on pourrait explorer.
Ouais.
Cette démocratisation de l'enregistrement-là, cette simplicité-là, force aussi les jeunes musiciens qui sont nettement meilleurs que les musiciens de ma génération, mm-hmm. techniquement, je le dis. Donc, ça les force aussi à axer leur jeu sur la performance. Mm-hmm. Et là-dedans, ça, c'est remarquable.
Ouais.
Autant avec Nowhere que les albums solo de Louis Cole, c'est... On parlait de virtuosité, mais la cohésion, moi, c'est ce qui m'a soufflé, parce qu'il y a beaucoup de choses, comme je te disais avant l'émission, avant l'enregistrement, qui ne sont pas dans ma sensibilité musicale. Mais clairement, je vais y revenir juste pour entendre cette espèce de cohésion musicale puis de performance. Mais ce que je te disais, c'est qu'en termes d'enregistrement, souvent, cette facilité d'enregistrement-là ou cette simplicité-là force... tout le monde à y aller d'une performance exceptionnelle,
ouais.
mais ça s'entend. Bref, je te laisse aller, mais c'est un peu le lien sur la performance que je voulais faire.
Ça me fait penser avec le piratage, puis avec le streaming, puis avec ça devient de plus en plus difficile pour des musiciens d'avoir un revenu. Puis c'est sûr que les dépenses baissent pour l'enregistrement si tu n'as pas besoin de louer un studio, mais... Ce qui reste une bonne source de revenus, en fait, c'est l'expérience que tu ne peux pas recopier gratuitement à l'infini.
Okay. Ouais.
Aller voir un spectacle, tu ne peux pas vraiment l'avoir dans ton téléphone.
Tout à fait.
Par contre, si des musiciens, comme ce que Louis Cole nous démontre, c'est si tu arrives à créer un produit audiovisuel qui montre une prestation.
Tout à fait.
De la virtuosité, puis une bonne qualité de production, somme toute. Ben, je veux dire, il y a une valeur de plus dans
une
ce
valeur
cas
ajoutée clairement, parce qu'il y a le visuel plus la performance musicale qui est là. En effet, ça c'est une belle manière aussi de présenter son art.
Ouais.
Mais oui, c'est vraiment un artiste. Moi, je qualifierais ça, c'est drôle, on parlait de jazz, mais il y a quelque chose de très pop dans ce qu'il fait.
Oui, oui, oui.
Et normalement, ça devrait m'achaler. C'est encore le sujet d'une autre émission. Pourquoi que j'ai pas une sensibilité très pop? Moi, j'aime pas les bons chanteurs, en plus. J'aime les chanteurs. Mais ça, c'est nickel. Et ça ne m'achale pas. Et probablement parce que la performance sur tous les plans est tellement exceptionnelle. Je te laisse terminer, là, mais c'est vraiment un artiste intéressant à découvrir.
Oui, j'aime que... Clairement, ceux qu'on voit dans les vidéos puis ceux qu'on entend sur l'album, ils ont clairement tout fait eux-mêmes. Puis j'aime qu'ils nous donnent une fenêtre sur leur processus. On voit pas ça souvent, peu importe le genre de musique. Ici, ça s'adonne que c'est un virtuose, que c'est pas ce qui m'attire d'habitude, mais il fait tout le reste d'une façon tellement attrayante que je le recommanderais à n'importe qui aime pas mal la musique. Ça me semble impossible d'aller écouter un peu de Louis Cole puis pas trouver ça fantastique.
À moins que
vous soyez quelqu'un qui est la musique pour vous, ça sert à rien ou c'est...
T'as un fond sonore.
Puis si c'est le cas, je pense que vous n'écoutez pas notre podcast. Donc, si vous nous écoutez, ben, allez jeter un coup d'œil à Louis Cole, c'est vraiment... Ben moi, ça fait le tour pour mon bloc.
Excellent, Mathieu. Belle découverte pour moi. Puis je vais y revenir avec sincérité, puisque j'ai adoré la performance et c'est vraiment un artiste intéressant à découvrir. Alors moi, ça sera... En réfléchissant au prochain sujet, au sujet de cet épisode-là, moi, depuis quelques années, j'ai beaucoup de... J'essaie de m'éloigner de la forme chansonnière, toutes sortes de raisons. Je trouve souvent les voix, il y a quelque chose qui... Pas qui m'agace, mais j'ai tellement entendu de chansons dans ma vie que des fois, j'ai besoin de m'éloigner de la forme chansonnière traditionnelle. Et je me suis, depuis un an que la pandémie et mes multiples achats de vinyle, compte de dépenses qui a augmenté beaucoup, je me suis tourné un peu vers les musiques de films. Et souvent, les musiques de films, ça peut être très plate. Ça peut être plein de remplissage, sauf pour quelques compositeurs qui sont remarquables. Et souvent, il y a beaucoup de musiques de films qui sont inspirées de la musique populaire de l'époque, des morceaux atmosphériques qui sont assez plates. J'ose espérer que les sélections que je vais vous proposer, là, chers auditeurs, vont vous inspirer. Et voilà. Et j'en ai sélectionné trois trames sonores cinématographiques. Et pourquoi? Parce que ce sont pour moi des trames sonores qui vivent très bien sans le film. Il y en a qui... Parce que souvent, là, ce qu'on peut retrouver comme trame sonore également, c'est souvent aussi des sortes de listes de lecture, c'est souvent des chansons.
Ouais.
C'est un peu... Tarantino le fait bien dans ses films, mais quand même, c'est collé au film. Là, ça, on est capable... ce sont des œuvres pour moi à part entière. Et la première trame sonore que je vous propose, c'est « The Good, The Bad and The Ugly », classique du cinéma, film réalisé par Sergio Leone, et trame sonore composée par l'un des grands du genre qui est Ennio Morricone.
À mon avis, le top.
Oui.
À mon avis, il y en a qui sont proches, là, mais pour la quantité de films sur lesquels il a travaillé, pour la quantité de mélodies absolument immortelles qu'il a réussi à créer, la densité de son travail, c'est pour moi, c'est le maître de musique de film. Il n'y en a pas un qui est à son
niveau. Artiste phénoménal.
Ouais.
Compositeur phénoménal également. Et dans le fond, là, je fais un court synopsis du film pour vous remémorer un peu. Là, c'est un western spaghetti légendaire qui met en vedette une brochette d'acteurs brillants dont Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Eli Wallach. C'est divisé en trois actes, une histoire très simple, chacun centré sur l'un des personnages principaux à la recherche d'une précieuse cache d'or pendant la guerre de sécession. Quand j'étais plus jeune, c'est le genre de film qui me fascinait un peu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, par contre. Effectivement, j'ai fait ce choix parce que je considère que cette trame sonore-là comme étant la première que j'ai entendue dans ma vie, en mesure de vivre par elle-même, même si certains passages musicaux nous rappellent avec bonheur certaines scènes. La musique de Morricone a exercé une influence majeure sur les partitions occidentales jusque dans les années 90. Et sur cette trame-là particulièrement, il utilise un éventail remarquable d'outils musicaux. On parle des Sid Western, de cuivre. Il y a des percussions là-dedans qui sont intéressantes, qui sont assez présentes. Des cloches, des arrangements de voix, des guitares acoustiques, électriques. Bref, tout ça s'entrechoque. Et évidemment, il y a la fameuse recette de la trame sonore où il y a le motif central qui revient tout le long, qui peut être agaçant par moments, mais c'est tellement... Son motif est tellement fort, ouais, et mémorable. Et d'ailleurs, je te rappelle que les Ramones utilisaient introduction de leur concert. Ça a fait époque. Et la chanson-titre, d'ailleurs, des influences surf-rock très intéressantes. C'est un peu... Je l'écoutais en vinyle, évidemment, le son assez fort. Et il y a quelque chose de je vais m'exprimer crûment, là, mais de sale dans l'enregistrement, dans la prise de son, qui fait que ça apporte un petit côté intéressant. C'est pas une trame sonore qui est nécessairement lisse. Évidemment, comme je le mentionnais, là, c'est le thème. Il démarre la trame sonore avec le thème qu'a fait époque. Sans être un fan fini de Western Spaghetti, en plus, il y a quelque chose de personnel par rapport à ça. C'est une œuvre qui me rappelle aussi l'Espagne. Parce qu'il y a quelques années, je me suis rendu à Barcelone en partance de Toulouse. Et je ne savais pas ça. La route passe au travers des lieux où ont été tournées certaines scènes des films de Leone dans ce coin-là. Tout le monde pense que ça a été tourné aux États-Unis, mais finalement, c'est tourné en Espagne.
J'aurais pensé l'Italie parce que
c'est ça. Mais c'est tourné majoritairement en Espagne.
En Espagne, OK.
Et c'est vraiment majestueux et désertique. Bref, c'est une trame sonore, je trouve, qui plante magnifiquement le décor, moi, qui me fait voyager. Et là, j'ai fait exprès, évidemment, j'ai pas choisi le thème central de la trame sonore. Mm-hmm. J'ai choisi Padre Ramirez. deuxième trame sonore maintenant, et ça, c'en est une qui vit vraiment seule. On n'a pas besoin d'avoir vu le film de Paul Thomas Anderson. Je parle de la trame sonore de There Will Be Blood, composée par, évidemment, Johnny Greenwood de Radiohead. Le synopsis du film, rapidement, c'est une histoire de famille, de religion et de pétrole. Un personnage central qui se nomme Daniel Plainview, qui est un prospecteur qui achète les droits d'exploitation de puits de pétrole d'une famille vivant dans un ranch au Texas. Mais bien vite, le prospecteur se rend compte que le pétrole va remettre en question le rêve américain. C'est vraiment une critique sociale sur l'appât du gain. Je résumerai ça comme ça. C'est un film que honnêtement, je me souviens plus ou moins, à part la scène, puis là, on fera pas une critique de cinéma, mais la scène de bowling à la fin qui est absolument mémorable. Ouais. Et moi, Paul Thomas Anderson, certains peuvent le trouver un peu pompeux comme cinéaste, mais moi, je l'aime bien. Comme je le mentionnais, c'est une trame sonore qui vit parfaitement par elle-même. Semble-t-il que Greenwood aurait écrit des heures et des heures de musique pour le film, mais finalement, le duo Anderson-Greenwood a réduit la partition à 33 minutes, dont une petite partie a été reprise à partir d'une œuvre que je n'ai pas écoutée, intitulée Popcorn Superhet Receiver de Greenwood, qui a été commandée par la BBC en 2005. Et ce qui est le fun, si vous aimez Radiohead, vous allez retrouver l'amour, les sons proférés par Greenwood au sein de Radiohead. On va entendre du piano, des percussions, les ondes Martenot. Et évidemment, il est amoureux des cordes et il les utilise en parfait escient là-dedans. Ça occupe le devant de la scène tout le long. Et c'est quand même une approche que je qualifierais quasiment d'avant-gardiste exploratoire des cordes. Donc, les sons sont stridents et on est aux antipodes des films hollywoodiens en termes de trame sonore. C'est quand même une production d'Hollywood, mais la trame sonore, elle, en tout cas, moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça s'éloignait des trames sirupeuses des films hollywoodiens. Et bref, et ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, cette trame sonore-là, c'est qu'il n'y a pas de motif répétitif. La narration de la partition est totalement inexistante. Fait qu'il n'y a pas de thème central qui revient. Et c'est vraiment... Fait que si vous n'avez pas vu le film, vous embarquez là-dedans, vous l'écoutez comme une œuvre à part entière. Et la moitié des séquences sont, semble-t-il, jouées par un quatuor à cordes avec ou sans piano. Et l'autre moitié a été confiée à la section des cordes plus complète de l'orchestre. Il n'y aurait apparemment aucune contribution de cuivre. Puis effectivement, en portant attention, effectivement, on n'entend pas de cuivre, de bois, de percussion. Mais c'est surtout Greenwood qui applique des techniques qui fait que par moment, ça peut évoquer des cuivres et des percussions. Je l'ai encore écouté récemment, et ça s'écoute, volume assez fort. C'est pas pour rien que j'ai des problèmes d'audition, là. et je le répète, ça s'écoute sans avoir écouté le film. Je pense que je le vends bien à part ça. Oui. La trame sonore de There Will Be Blood, trame sonore composée par Johnny Greenwood. Et je pense que la pièce qu'on va entendre, c'est la pièce introductive qui est Open Spaces. Enfin, je conclue avec un de mes réalisateurs préférés qui fait pas toujours des bons films, mais quand il en fait un bon, c'est solide.
Ouais.
Darren Aronofsky.
Ouais. Moi, il me tape un peu ses nerfs. Mais comme tu disais, Paul Thomas Anderson, il fait pas l'unanimité, mais moi, je l'aime beaucoup. Darren Aronofsky, j'ai de la misère avec ses films. Sauf, curieusement, Mother. J'ai adoré Mother.
OK.
Beaucoup de ses autres films.
Moi, j'ai adoré The Whale, le dernier.
Ouais, je pense que je ne l'ai pas fini.
OK, non, mais c'est correct, tu as le droit. Moi, j'ai adoré ça. Moi, je suis en lambeau. Moi, je suis insensible, fait que voilà.
Mais Requiem for a Dream, je dois avouer que quand je l'ai vu, la première fois, je l'ai adoré. Je suis retourné le voir au cinéma, puis la deuxième fois, je me suis rendu compte que je n'aimais pas ça tant que ça pendant que je regardais le film.
OK.
Mais parce que des choses me tapent sur les nerfs, mais la musique du film m'avait vraiment rentré dedans.
Bon, c'est un personnage dans le film, on va se le dire. Absolument. Tout à fait. Effectivement, bon, le film réalisé par Darren Aronofsky et la trame sonore est composée par Clint Mansell et interprétée en partie par Kronos Quartet. Rapidement, là, il y a un personnage qui se nomme là-dedans Harry Goldfrapp, qui est toxicomane, passe ses journées en compagnie de sa petite amie Marion et de son compagnon Tyrone, mais ils ont des problèmes problème de drogue. Et de l'autre côté, on a la mère, je pense, de Harry, Sarah, qui souffre d'une autre forme de dépendance à la télévision. Bref, c'est un film sur les dépendances et il fait un lien entre la dépendance à la télévision, qui est aussi malsaine pour Aronofsky, que la dépendance à la drogue. On peut en débattre. Et qui est Clint Mansell? C'est l'ancien chanteur-guitariste de Pop Will Eat Itself, groupe que j'ai écouté récemment parce que mon épouse trippe sur ce genre de groupe-là.
Ouais.
Groupe, pour moi, pour qui je n'ai aucune affinité.
Mm-hmm.
Mais quand même, j'étais surpris que le principal, le chanteur-guitariste de ce groupe-là compose des trames sonores et de cette qualité. Exact. Et là-dedans, ben, il y a les penchants électroniques industriels dont vous pouvez vous douter de la part de Mansell et qui se joignent aux interprétations sombres et évocatrices de Kronos Quartet. Et également, ce qui est bon de cette partition-là aussi, c'est que ça réussit à être à la fois sombre et dérangeant comme trame sonore, mais c'est aussi agréable à écouter. Et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est la part de Kronos Quartet. Qui pour moi est d'ailleurs la dernière partie. Justement, la partition est divisée en 33 pistes, toutes dans l'ordre chronologique. Chaque segment représente les saisons de l'été, de l'automne et de l'hiver. L'ouverture d'été, c'est la première pièce de ce film-là. Il constitue la première d'une série d'explorations du thème principal. La musique est douce et lente, mais pleine d'angoisse et de pressentiments. Et le thème principal, comme n'importe quelle trame sonore, est joué un grand nombre de fois tout au long de la trame sonore, mais c'est jamais trop surutilisé et souvent c'est un peu distorsionné, puis il y a des changements subtils qui sont introduits dans ce motif-là à chaque fois. Et tu ne seras pas surpris que ma partie préférée...
C'est l'hiver.
C'est l'hiver. Alors, pour toutes sortes de raisons, c'est plus audacieux, expérimental. Les violons du Kronos Quartet sont joués de manière répétitive et dissonante, parallèlement à une musique électronique plus stridente. Et la seule intention, selon moi, de Mansell, et ça va avec le film également, là, c'est de mettre l'auditeur dans un état constant de stress et de désespoir. Ça va être probablement plus difficile à écouter pour certains, mais je pense que ce sont les morceaux, pour moi, les plus... je dirais spectaculaire de cette trame sonore-là.
Ouais.
Et je pense, là aussi, que c'est une œuvre qui s'écoute sans nécessairement avoir vu le film, mais quoique, si vous regardez le film, vous allez voir que la musique est un personnage. Encore une fois, j'ai écouté du vinyle pas plus tard que samedi dernier avec le son assez fort et ça le fait. L'extrait que qu'on va vous faire entendre, c'est Southern Hospitality, extrait de, je pense, c'est dans la section hiver. Et je conclue rapidement avec une dernière suggestion, puis ça a failli s'immiscer.
Ouais. Pour faire un choix à un moment donné, on peut pas faire durer ça.
Exact, parce qu'on. Tout à fait. C'est un de mes films préférés des dernières années qui est Midsommar, film réalisé par Ari Aster. Je trouve que c'est un réalisateur exceptionnel qui réussit pas toujours ce qu'il veut faire, mais quand même, il y a une intention. Enfin, un film qui détonne et on. J'ai vu Beau is Afraid, je pense, qui dure à peu près 3 heures, qui c'est long par moment, mais c'est pas grave. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a un essai là-dedans.
Ouais.
La trame sonore de Midsommar, ça a été composée par Bobby Kierlick, qui son nom de projet, c'est The Axe and Cloak, si je me souviens bien. Je pense que cette trame sonore-là accentue l'aspect anxiogène de ce film-là. Et pour vous donner une idée, le film se déroule dans une sorte de secte suédoise en plein solstice d'été. Ça se transforme à un moment donné en espèce de simili-film fantastique d'horreur où finalement le feu prend dans la grange. Bref, allez-y, c'est beau en plus. Et c'est probablement dans les films là, que j'ai vu, à un moment donné, ils prennent je pense, du LSD. Et,
du champignon.
Du champignon.
Ouais.
C'est probablement visuellement, si vous voulez savoir ce que ça a l'air un trip de champignon, visuellement c'est réussi.
Ouais, ouais.
Souvent, on est tout le temps dans le cliché psychédélique avec des couleurs vives, c'est pas ça. Là. En tout cas, j'ai l'air d'un gars expérimenté dans le genre, mais je veux juste vous dire, si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est prendre des champignons,
ça donne vraiment l'impression d'être dedans. Ouais.
Tout à fait. Ouais. Et, mais c'est une excellente trame sonore aussi. Bref, je m'arrête parce qu'on finira pas, et, mais c'est un peu mon segment là, pour ce mois-ci.
J'ajouterais, si j'avais été forcé à faire un segment sur la musique de film, c'est sûr que j'aurais parlé de Morricone comme toi. Je soulignerais le travail de Johan Johansson.
Ben oui.
Évidemment avec Denis Villeneuve, mais avec d'autres films qu'il a fait aussi. J'ai récemment vu Mandy avec Nicolas Cage.
Oui.
Et c'était la trame sonore à laquelle Johan Johansson travaillait au moment de sa mort en 2018.
Oui.
Quelque chose comme ça. Donc, ouais, le travail que Johan Johansson a fait, je trouvais que c'était pas mal dans le top de ses contemporains. Et il y a sa collaboratrice constante, Johan Johansson, qui est Hildur Gunnadottir, je ne sais pas oui. si je le prononce bien, qui ouais. elle aussi a gagné un Oscar pour son travail sur la trame sonore de Joker. Et qui est une musicienne vraiment intéressante. J'ai entendu des albums où elle était invitée. Très, très créative, elle aussi. Récemment, j'ai vu Mandy, c'est un film de freak. C'est un genre de cauchemar heavy metal. Donjons et dragons, la panique de satanique des années 80. Très sanglant. Et en l'écoutant, je trouvais que la musique était vraiment réussi. Ça me donnait l'impression que c'est une trame sonore qui fonctionne séparée du film.
Excellent.
Mais je dois avouer que de mon côté, j'ai tendance à pas attendre, je m'attends pas à beaucoup d'une trame sonore. Je veux qu'elle fonctionne dans le film. Et si elle fonctionne à l'extérieur, tant mieux. Mais quand un musicien reçoit une commande, l'important, c'est que ça fonctionne avec le film.
Oui.
D'ailleurs, Jeff Barrow de Portishead et son collaborateur font plusieurs musiques de films pour des films de science-fiction, des films d'horreur.
En effet.
Et
oui.
eux, ce que j'ai, quand j'ai essayé d'écouter ces trames sonores-là tout seul, je vois pas l'intérêt. Mais dans les films, ça fonctionne toujours très bien. Et comme tu disais au sujet de Johnny Greenwood, c'est en opposition à une espèce de cliché de trame sonore ouais. hollywoodienne. Et ça fonctionne
ça
vraiment
fonctionne
très bien.
Très bien. Ben, c'est ce qui conclut cette deuxième édition d'Ultrason, Mathieu, en espérant que ça nous ait plu
ouais.
et que ça ait plu à tout le monde aussi. Là, on va avoir des petits boniments à ajouter à chaque fin d'émission comme ça, parce que là, écoute, on est professionnel, on a des adresses courriel, on a une adresse Facebook.
C'est vrai,
fait que là, on vous le donne. Alors, fait qu'on sera prêt à échanger peut-être plus concrètement avec vous. Vous pouvez donc commenter, dénigrer ou apprécier notre émission en vous abonnant à notre page Facebook, dont l'adresse est suivante, c'est facebook.com/ultrason.podcast.
Ultrason au pluriel.
Oui, Ultrason. Merci Mathieu. Ouais. Ultrason au pluriel.podcast. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par courriel à l'adresse Ultrason au pluriel, bien sûr, podcast tout ensemble, @gmail.com. Et enfin, nous avons aussi un compte Instagram, mais qu'on va tellement utiliser pour...
On va vous achaler avec nos Reels, ça finira plus.
Ah, ça finira plus, là, puis on est sur le bord d'ouvrir un compte TikTok. Non, c'est pas vrai. Nous avons aussi un compte Instagram dont l'adresse est ultrason_, je sais pas en français, barre, on va dire underscore.
De
bon, on va utiliser underscore, c'est bien correct, ouais. Là, podcast. Et encore une fois, merci Mathieu pour ton excellent travail. Et puis, ben, on se voit le mois prochain, comme d'habitude.
Excellent. Merci beaucoup.
Bye. Bye.